La restriction de la vente d'alcool à emporter entre en vigueur à l'instant même en Calédonie. Les boissons alcoolisées seront vendues en quantité limitée par jour et par personne jusqu'au 1er janvier inclus. Le dernier marché broussard de l'année à Boulary au Mont-d'Or, l'occasion de dresser le bilan de cette année 2025, marquée forcément par un fort repli de la consommation. 24 heures après la violente agression au couteau de trois femmes dans le métro parisien, le profil et le parcours de l'assaillant interroge. L'homme, un Malien, est sous OQTF. L'État pourra fonctionner à peu près normalement. Au 1er janvier, le président de la République a promulgué la loi spéciale qui permet de pallier l'absence d'un budget pour l'année 2026. Et puis le sport et la voile avec la suite de la Sydney Hobart. La lutte fait rage en tête de la course et désormais Scully Wong qui mène la flotte devant Comanche et Low Connect. Les Calédoniens, eux, sont dans le détroit de Bath. Bonjour, très bon dimanche, soyez les bienvenus dans ce journal à la une de l'actualité. Vous le savez très certainement, la vente d'alcool est donc dès à présent restreinte et ce jusqu'au 1er janvier inclus. Le Haut Commissariat l'a annoncé hier. Pas d'interdiction d'acheter, mais une limitation d'achat, notamment en vue de la Saint-Sylvestre. Le Haut-Commissariat qui a justifié cette décision pour, et je cite, « prévenir les troubles à l'ordre public ». La mesure prenait donc effet ce midi, Michael Juneski.
Oui, alors que la décision a été annoncée hier après-midi, il n'y a pas eu de rush constaté aujourd'hui avant 12h dans les magasins spécialisés ou bien les espaces dédiés des grandes surfaces. Les supermarchés se sont tout simplement adaptés pour mettre en place cette restriction dès la mi-journée, comme nous l'a indiqué qui est cette responsable de rayon alcool qui n'a pas assisté à un pic de fréquentation avant 12h.
Ça va, c'est pas full, il n'y a pas full.
Ouais. Comment vous allez procéder pour bien surveiller?
Ben, du coup, on a déjà mis des affiches et les passages en caisse, on leur explique aussi qu'à partir de midi, voilà, ça va être une restriction sur la vente d'alcool.
Effectivement, on le rappelle, il ne s'agit pas d'une interdiction, mais d'une mesure temporaire de limitation de la vente d'alcool, limite fixée par jour et par personne à 4 litres de boisson ayant un titre alcoolimétrique n'excédant pas 10 degrés, traduisez la bière ou encore le cidre, ou bien 2 litres de boisson ayant un titre alcoolimétrique supérieur à 10 degrés n'excédant pas à 18 degrés, du type vin ou encore champagne, ou encore 1 litre de boisson ayant un titre alcoolimétrique supérieur à 18 degrés, évidemment les alcools forts. La clientèle se montre aussi mitigée après cette annonce, mais les Calédoniens ont désormais pris l'habitude de ces régimes.
C'est un peu logique, hein, avec tout ce qui se passe actuellement. Il faut être prudent.
Et vous, monsieur, vous disiez de toute façon vous avez été prudent et puis la grande consommation
Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Juste ce qu'il faut pour être bien, mais c'est pas la peine non plus de rouler sous la table.
Nous le disions, des restrictions auxquelles le grand public s'est désormais habitué donc depuis l'année dernière, notamment à chaque période dite sensible, mesure en vigueur sur l'ensemble du territoire. Le Haut Commissariat qui a par ailleurs rappelé que la consommation d'alcool sur la voie publique demeure strictement interdite.
C'est le dernier dimanche de l'année 2025. Dimanche certes pluvieux, oui, mais cela n'a pas empêché les Calédoniens de sortir leurs paniers et autres sacs cabas pour leur petite balade dominicale, notamment du côté du marché de Boulary au Mont-d'Or, Charlotte Coulson.
Oui, le dernier marché de l'année, vous l'avez dit. Et quelle année ? Le commerce n'a pas été un secteur très porteur, surtout pour les producteurs locaux. Après un démarrage au ralenti, les organisateurs du marché ont dû se réinventer pour attirer plus de clientèle et surtout plus de commerçants. Et aujourd'hui, le gestionnaire du marché, Olivier Surgeon, constate que les efforts commencent à porter leurs fruits.
L'année 2025 a été l'année de la reconstruction, il fallait se réinventer. D'abord, il fallait rechercher des exposants, des gens qui veulent bien revenir commercer sur la zone. Donc ça a été compliqué parce qu'on a quand même été pas mal impacté avec un pillage, puis des cambriolages et un secteur qui faisait peur. Il faisait plus peur qu'il était dangereux au final, mais ça faisait peur. Donc en fait, on a réhabitué déjà des commerçants à revenir sur la zone. Ensuite, les commerçants ont attiré des gens et les gens ont commencé à reprendre lieu et place dans ce marché. À Boulary, avec le concours bien sûr de la mairie qui nous a accompagnés pendant toute cette année pour pouvoir créer des événements. Et donc on a augmenté d'à peu près 30 à 40% le nombre d'exposants qui viennent au marché de Boulary entre 2024 et 2025.
Et du côté des visiteurs, on fait toujours attention aux dépenses, mais on se prive moins, surtout en cette fin d'année.
On vient tous les dimanches à peu près faire notre marché. Je trouve que c'est convivial, les produits sont frais, c'est sympa.
Et alors qu'est-ce que vous avez trouvé?
Du poisson, de la viande, des langoustes, parfait pour le week-end.
Je t'ai jamais arrêté, ouais. C'est la première fois. On est venu pour chercher du jarret ou des choses comme ça pour manger le dimanche parce que c'est toujours mieux de ne pas faire la cuisine, quoi. Surtout le dimanche quand il pleut. C'est les prix après, hein. Ouais, on essaie de faire attention, quoi. c'est sûr.
Bon, il y a quand même moins d'exposants, on va dire. Le plus d'exposants, c'est le dimanche, quoi. Donc, on vient le dimanche. Il y a beaucoup maintenant, il y a les épices de l'autre côté, donc c'est super sympa, quoi, hein, voilà.
Le marché de Boulary se tient du jeudi au samedi de 6h30 à 13h30 et puis le dimanche de 6h à midi.
Allez, ouvrons une page plus magazine dans ce journal. Elle nous protège de la houle, font naître les poissons que nous trouvons dans nos assiettes et captent le carbone que nous dégageons. Les mangroves s'étendent sur 290 km² en Nouvelle-Calédonie. Écosystème riche et pourtant menacé. C'est ce que révèle un rapport qui a été publié au début du mois, Charlotte.
La liste rouge des écosystèmes, c'est une méthode qui permet d'évaluer l'état des écosystèmes en France et dans le monde. Et pour la première fois, elle s'est intéressée à la biodiversité calédonienne. Et malheureusement, les résultats sont alarmants. Leur travail, mené sur le territoire par Agnès Carlier, déléguée de l'Office français de la biodiversité pour la Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna, présente la mangrove de Nouvelle-Calédonie comme vulnérable.
Et ben, ce dont on s'aperçoit, et c'est le premier point, c'est qu'on manque furieusement de données. On n'a pas encore mis en place de suivi récurrent, comme on a pu le faire sur le corail aujourd'hui sur les mangroves. Deuxième point, ben on a le changement climatique qu'on connaît, qui probablement va faire monter le niveau de la mer. Et il faut que les mangroves puissent reculer. Il faut leur laisser de la place. Et donc, une des pressions humaines les plus impactantes potentiellement, c'est cette coupure qu'on peut faire entre les mangroves et les arrières-mangroves. Et donc, cette coupure-là, elle empêche de remonter. Et puis, elle peut empêcher aussi l'eau douce d'arriver jusqu'aux mangroves.
Et même si les mangroves ont la réputation d'être un filtrant naturel, on ne peut pas y déverser tous nos déchets. Elles ont besoin d'un équilibre pour fonctionner. Et cet équilibre est menacé par plusieurs activités humaines. Le rapport note également le travail de préservation des associations et des collectivités qui fonctionnent, puisque la Calédonie a de nombreuses mangroves qui sont préservées. Mais il faut renforcer ces actions de conservation, c'est ce que note le rapport, en plus de pointer les activités humaines qui menacent la mangrove.
De quoi ont besoin les mangroves ? Elles ont besoin d'un équilibre entre cette eau salée et cette eau douce, et d'un équilibre entre les oligo-éléments qui sont dans les matières en suspension qui vivent dans la mangrove. L'érosion des terres, notamment par l'exploitation minière, mais aussi simplement l'assainissement des communes ou les cultures de crevettes, ou etc. Enfin, il y a beaucoup de choses. On a tous, en fait, un peu notre impact. Et donc, on va modifier l'équilibre biologique de la mangrove. Franchement, je ne montre du doigt personne. On est tous un peu responsables de ça. Il faut faire attention à ce qu'on fait arriver dans les mangroves.
Le rapport évalue également les mangroves de Wallis et Futuna qui, elles, sont classées en danger critique.
Il est midi et 8 minutes. On va marquer une première pause dans ce journal. À suivre l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, c'est la pub.
Sur la route, chaque choix compte. Adoptez les gestes essentiels. Ne prenez pas le volant si vous êtes alcoolisé. Parce que conduire sobre, c'est se protéger et protéger les autres. Boire avant de conduire est dangereux. Ceci est un message du COSODA, Comité des entreprises d'assurance de Nouvelle-Calédonie.
Dès maintenant avec Google Pay, le paiement mobile débarque à la BNC. Enregistrez votre carte sur votre smartphone Android et payez avec votre mobile partout où vous allez. C'est simple, rapide et sécurisé. Vous allez adorer être client à la BNC. Plus d'infos sur bnc.nc. Banque de Nouvelle-Calédonie, siège social 10 avenue du Maréchal Foch, 98 849 Nouméa CEDEX, RCS Nouméa 74 B047 688 plus coût de connexion selon votre opérateur.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Vous êtes sur RRB, plus la peine de zapper.
La suite de votre journal avec Lionel Sabot.
L'actualité à l'étranger, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président américain Donald Trump devraient se rencontrer en Floride en début de semaine. L'agenda s'annonce chargé entre les deux hommes avec au menu des discussions la deuxième phase du cessez-le-feu dans la bande de Gaza ainsi que les tensions en Iran. Il s'agira de la cinquième rencontre entre les deux hommes aux États-Unis depuis la réélection de Donald Trump à la présidence américaine. Donald Trump qui va rencontrer rencontrer également d'ici quelques heures Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Rencontre autour évidemment des négociations de paix avec la Russie. En Ukraine, le Bureau national anticorruption a tenté de perquisitionner la nuit dernière les bureaux de plusieurs députés du pays. Alors ils sont accusés d'avoir accepté des pots de vin en échange de leur vote au Parlement. Un nouveau coup dur pour le président ukrainien. Rémi Almavi pour Europe 1.
Une nouvelle affaire dont Volodymyr Zelensky aurait pu se passer, un scandale dont pourrait aussi se servir la Russie pour justifier ses dernières attaques, Moscou arguant toujours que le régime ukrainien est complètement corrompu. Une affaire qui pourrait aussi donner du grain à moudre à Donald Trump pour accentuer sa pression sur son allié ukrainien afin de le pousser à accepter les conditions de Moscou pour un cessez-le-feu. Les deux dirigeants américains et ukrainiens doivent toujours se rencontrer demain en Floride. Volodymyr Zelensky est dans l'avion, direction les États-Unis. Il doit d'abord s'arrêter au Canada pour rencontrer le Premier ministre Mark Carney. Avant de décoller pour l'Amérique du Nord, il a aussi commenté les dernières attaques russes sur son pays. Moscou lance des attaques massives contre l'Ukraine alors même que nous nous dirigeons vers des négociations de paix, a-t-il déclaré à un journaliste. Demain, lors de sa rencontre avec Donald Trump en Floride, le président ukrainien espère obtenir de nouvelles garanties de sécurité de la part des États-Unis qui, il l'espère, pousseront la Russie à stopper ses frappes sur l'Ukraine.
Rémi Amalville, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. En métropole, revenons sur cette attaque au couteau hier dans le métro à Paris. Un homme, je vous le rappelle, s'en est pris à plusieurs femmes dans plusieurs stations de la ligne 3. Les victimes ont notamment été touchées au dos mais aussi aux cuisses. Une enquête a été ouverte pour tentative d'homicide volontaire mais aussi violence volontaire avec arme. Au lendemain de l'attaque, des interrogations subsistent sur les motivations de l'individu. Mathias Lang pour Europe 1.
Les enquêteurs doivent encore comprendre pourquoi cet individu est passé à l'acte. Le fait de s'attaquer exclusivement à des femmes était-il le fruit du hasard ou était-ce volontaire? Hier, en fin d'après-midi, le suspect sort son couteau une première fois un peu après 16h. Il se trouve à la station de métro République sur la ligne 3. Une première femme est visée, mais l'agresseur ne s'arrête pas là. Il s'en prend à deux autres femmes, cette fois-ci aux stations Arts et Métiers et Opéra. Grâce aux images de vidéosurveillance, le suspect est identifié, son téléphone géolocalisé. Il est finalement interpellé chez lui à Sarcelles, en région parisienne. En ce qui concerne son profil, on sait qu'il est âgé de 25 ans et qu'il est d'origine malienne. L'homme est connu de la justice. En janvier 2024, il est écroué pour vol aggravé et agression sexuelle. Après sa libération, il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Selon nos confrères du Parisien, suite au fait, la piste terroriste serait écartée. Une source policière citée par le journal évoque l'œuvre d'un possible déséquilibré ou d'une personne fragile psychologiquement.
Mathias Long du service police-justice d'Europe 1. Pour faire face à l'absence d'un budget adopté pour la France, la loi spéciale promulguée par au journal officiel a déjà utilisé l'an dernier. L'outil permet de financer provisoirement l'État en 2026. La loi spéciale reconduit jusqu'à l'adoption d'un nouveau budget et impôts, mais aussi les enveloppes allouées à l'État. Et ce, dans les conditions de 2025. Elle permet aussi d'éviter un blocage de l'État comme peut le connaître parfois les États-Unis. On reparle de la dermatose bovine. Plus de 50% des bovins ont été vaccinés dans le sud-ouest. C'est ce qu'annonce sur le réseau social X la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard. Les agriculteurs bloquent encore quelques routes, notamment en Occitanie. Mouvement pour dénoncer, vous le savez, la gestion de la dermatose bovine par le gouvernement. Après la Poste, c'est au tour de Mondial Relais d'être victime d'une cyberattaque. La société de livraison a été piratée à la veille du réveillon Noël. Il n'y aurait pas de données bancaires volées, mais des informations comme les noms, prénoms, adresses postales, numéros de téléphone ou bien même encore suivi des colis qui ont pu être subtilisés, c'est déjà pas mal. Des attaques d'aussi grosses entreprises qui n'étonnent absolument pas Thibaut Carré. Il est le directeur des activités de cybersécurité chez InQuest, entreprise d'accompagnement dans la gestion de crise cyber.
Ça peut être surprenant de voir qu'une grande entreprise comme Mondial Relais peut être attaquée. Néanmoins, ce qu'on peut voir, c'est que des entreprises comme ça sont très exposées. C'est des entreprises qui vont traiter des volumes extrêmement importants de données personnelles et c'est ce qui va justement intéresser les cybercriminels. Ils vont d'abord cibler quelque part leurs victimes. En tout cas, c'est ce qu'on peut imaginer. C'est-à-dire qu'ils vont prendre le temps de comprendre comment l'entreprise fonctionne, comment les systèmes fonctionnent. Et puis, ils vont chercher des failles. Et une fois qu'ils ont trouvé une faille, ils vont s'engouffrer dans cette faille pour pouvoir quelque part frapper fort au moment où ils ont la main sur le système, potentiellement récupérer ces données, soit pour mettre la pression pour obtenir obtenir une rançon, soit pour revendre les données ou les réutiliser autrement. Donc, c'est des cibles, on va dire, privilégiées pour ce genre de groupe cybercriminel.
Thibaut Carré, directeur des activités de cybersécurité chez InQuest. Actualité religieuse et Paris qui va accueillir à partir de demain 15 000 jeunes à l'occasion des 48e rencontres de Thésée, événement très attendu par les jeunes catholiques de France, mais aussi d'Europe, français, polonais, ukrainiens, allemands, italiens. 15 000 jeunes vont donc se retrouver durant 4 jours pour des temps de prière ou encore des échanges de réflexion. Deux prières géantes sont même prévues à l'Hôtel Accor Arena de Paris-Bercy, moment attendu par Frère Luc de la communauté de Thésée.
Le soir, il y a donc des temps où on est tous ensemble pour des temps de prière. Et effectivement, demain et le 31, ça sera à l'Accor Arena de Bercy que tout le monde aura rendez-vous, donc de 19h à 21h30. Donc ça sera surtout des moments où on chantera ensemble, il y aura un temps de silence, il y a aussi un temps d'écoute, d'une lecture biblique, et où chacun ensuite est invité à réfléchir, à se recueillir pendant un moment de silence. Donc tous les participants, plus les franciliens qui voudront s'associer à ces moments-là, qui sont invités, feront silence en même temps. Donc c'est aussi un peu saisissant. C'est pas ce qui se passe habituellement dans ces lieux.
Le frère Luc de la communauté de Thésée qui organise donc ses 48e rencontres de Thésée à Paris. Il est à 12h16. On va marquer une dernière pause dans ce journal. Dans un instant, l'actualité sportive.
Mercredi 31 décembre, c'est le réveillon du nouvel an. Pensez à réserver votre table au restaurant Le Bilboquet Plage au 26 46 60. Retrouvez la mini-carte spéciale Saint-Sylvestre sur la page Facebook Le Bilboquet Plage.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
À la fin de votre journal, le sport avec Lionel Sabot.
Et on va continuer de vous faire vivre la 80e édition de la Sydney Hobart, épreuve de voile qui se déroule actuellement au large de l'Australie. Évidemment, nous en sommes à 1 jour, 23 heures et 17 minutes de course. Les Super Maxi sont à la lutte en tête de l'épreuve. Les détails avec notre correspondant Jean-Pierre Zajacin.
Le mal de mer, des blessures multiples, des problèmes de gréement et de dérive, des coques qui prennent l'eau et divers autres problèmes, notamment d'origine électrique, ont contraint de très nombreux équipages à renoncer. Ils étaient déjà 33 ce matin et leur liste risque fort de s'allonger en cours de journée et durant la nuit prochaine. En tête de course, Scallywag a pris le commandement des opérations devant le vainqueur en temps réel des deux précédentes éditions de la Hobart, Low Connect, à 2000 nautiques. Venait ensuite Comanche, à quelques encablures, devant le 27 mètres américain Lucky, à 2000 nautiques, et Palm Beach, 10 000 nautiques, plus en retrait. S'il maintient son allure, Scallywag devrait franchir la ligne d'arrivée aux alentours de minuit. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Et puis nous continuons de suivre également l'aventure des trois équipages calédoniens qui sont embarqués dans cette Sydney Hobart, Michael Juneski.
Oui, avec tout d'abord BNC Mynet Léon de Michel Quintin et Yann Rigal qui occupent toujours la tête du classement de la catégorie duo et ils pointent d'ailleurs à la 31e place du général. Pour le moment, un superbe parcours, une ambition claire d'aller chercher la victoire dans la catégorie double. Michel Quintin avait déjà signé deux succès dans la catégorie de navires IRC4 en 2015 et en 2017. Et puis les deux vainqueurs de la dernière New Caledonia Group à Marais en double sont sur la bonne voie pour aller signer une performance de prestige. Michel Quintin revient aujourd'hui sur cette nouvelle nuit en mer et cette troisième journée sur la grande course du Pacifique Sud.
Deuxième nuit en mer, voilà, qui se termine bien éreintante encore avec des conditions très très compliquées. Donc du vent jusqu'à 36, c'est ça ? 36 nœuds ? Donc avec une mère très très formée et bon voilà, on a fait le job. Pas été facile les changements de voile à deux, mais voilà, tout va bien. On a attaqué le détroit donc de basse et puis ben voilà, on est en route vers la Tasmanie. Les conditions sont très légères là. On a voilà pas trop de vent, c'était prévu. On n'a pas tout à fait la direction qu'on souhaiterait, mais ça va venir. Ça va arriver, donc voilà, on est dans le game et c'est le principal. Donc il reste encore la moitié à faire et donc bah, voilà, il faut qu'on se repose un peu et on est d'attaque.
Voilà pour ce dernier point de Michel Quintin, embarqué dans cette Sydney Hobart. Concernant les autres navires calédoniens, iCandy de Malo le Seigneur est lui remonté en 57e position à la 3e place des Sydney 38. Pulpito de David Tréguier est pour sa part à la 4e place de la classe des navires Sydney 38, 64e du général. Il faut dire que l'équipage de Pulpito MLS a rapporté une dernière nuit éprouvante et des avaries, une casse de chandelier ainsi qu'une rupture de hauban. Cet incident a contraint l'équipage à effectuer un arrêt technique indispensable pour pouvoir monter au mât et procéder à la réparation avant de pouvoir repartir.
Venons au sport sur la scène nationale avec du rugby.
Vibrez au rythme du rugby avec Société Générale, partenaire majeur du Top 14. À vos côtés sur le terrain comme dans la vie.
Et les premiers résultats de la 13e journée du championnat de France élite, l'UBB qui est tombé sur le terrain de Clermont ce matin, Mickaël.
L'Union Bordeaux-Bègles qui s'est inclinée face à l'ASM 34-19. Conséquence, les Girondins chutent du podium et sont désormais 4e, dépassés par le Stade Français. Les Parisiens qui s'inclinent pourtant, mais avec le bonus dans un match qui aura été jusqu'au bout du suspense à Bayonne. L'Aviron bayonnais a arraché la victoire sur ses terres 35-34 grâce à un essai transformé à la sirène. On retiendra aussi cette victoire du Racing 92 sur le promu Montauban, 61-16. De son côté, Castres l'a emporté face à Lyon, 36-22. Demain, il restera à suivre les rencontres entre la section paloise, leader du classement, et Montpellier, le RC Toulon qui fera face à la Lanterne Rouge, Perpignan, et le Stade Toulousain, co-leader du top 14, qui recevra La Rochelle.
Allez, on passe au football, Mickaël, avec la Coupe d'Afrique des Nations et le championnat d'Angleterre.
La deuxième journée des phases de groupe de la CAN et le Nigeria qui s'est imposé sur la Tunisie 3-2, un match qui comptait pour la tête du groupe C. Les Nigérians sont ainsi les deuxièmes qualifiés pour les huitièmes de finale après l'Égypte hier. De leur côté, l'Ouganda et la Tanzanie se sont quittés sur un nul, un but partout. Dans le groupe D, le Bénin a battu le Botswana 1-0. Le Sénégal et le Congo Kinshasa ont fait match nul, un but partout. Et puis, on jouait aussi sur les pelouses anglaises, la 18e journée de Premier League. Et à retenir cette victoire d'Arsenal sur Brighton 2-1, les Gunners, leader du classement. Aston Villa a battu Chelsea 2-1. Victoire sur le même score de Manchester City, cette fois sur le terrain de Nottingham Forest, 2-1 également.